Santé. J'adore ce thème concocté par Jean-Sébastien Laliberté, fidèle complice derrière la console. Bonjour, comment ça va? Bien, j'espère, Marianne Paquette au micro. Ravie de vous retrouver après cet été, ce long été magnifique, on a été bien chanceux. Avec une version un petit peu différente de C'est bon pour la santé, une version repensée pour vous, revampée aussi, qu'on a voulu peut-être un petit peu plus dynamique, plus diversifiée aussi. Donc, en formule hebdomadaire pour cette nouvelle saison, une version de 60 minutes. Mais bien sûr, on va continuer de vous parler des sujets qui vous intéressent, des sujets aussi qui sont importants pour nous. Prévention, saines habitudes de vie, des outils, des trucs concrets. On continue de parler de nutrition. On vous livrera aussi des réflexions, des témoignages inspirants d'acteurs importants dans le milieu de la santé, les recherches de l'heure. Et tout ça pour vous garder en forme longtemps et en santé. Aujourd'hui à l'émission, comment on peut ralentir le processus de vieillissement par l'activité physique? C'est possible et c'est ce que nous dit Mylène Aubertin-Leheudre. Elle est professeure au département des sciences de l'activité physique de l'UQAM, également spécialiste des aspects physiologiques du vieillissement et de l'exercice. Elle sera là en deuxième partie d'émission avec nous en studio pour nous expliquer comment on peut arriver à retarder ce processus de vieillissement et quels sont les exercices les plus efficaces, quel que soit notre âge et notre niveau de forme physique. Aussi, le directeur de Moelle Épinière et Motricité Québec, Walter Zelaya, nous parle des Journées québécoises des lésions midulaires qui auront lieu tout bientôt, du 10 au 22 septembre. Aussi, une formation qui vient en aide aux personnes qui vivent avec un problème de santé mentale intitulé « De l'autre côté de la pilule » et tout bientôt, Fanny Dagenais, directrice de l'Observatoire des tout-petits, nous livre les résultats d'un sondage populationnel sur la petite enfance. Fanny Dagenais, bonjour.
Oui, bonjour.
Comment ça va?
Ça va très bien, vous aussi?
Oui, très bien. Fanny, à la fin du mois d'avril, vous nous parliez sur ces zones de ce nouvel observatoire des tout-petits de la Fondation Lucie et André Chagnon, dont vous êtes la directrice. C'était un nouveau projet que l'on admirait, que l'on observait aussi de notre côté, un organisme qui a pour mission de contrer les inégalités chez les enfants, de favoriser leur bien-être également. Et là, vous nous arrivez, après quelques mois de cogitation, avec ce nouveau sondage qui révèle une chose qui est, à mon sens, plutôt importante, mais qui rassure aussi, c'est que les Québécois, dans une forte majorité, ont à cœur le bien-être des tout-petits.
Oui, en effet, on se rappellera que quand on s'est parlé au printemps dernier, l'Observatoire des tout-petits venait de sortir un dossier thématique qui révélait qu'un enfant sur quatre est vulnérable à la maternelle dans au moins un domaine de développement. Et ce qu'on a réalisé en faisant notre sondage populationnel, d'une part, c'est qu'une majorité de Québécois sous-estiment ou avouent ne pas connaître la proportion d'enfants vulnérables lorsqu'ils entrent à l'école. Donc déjà, c'est une donnée qui n'est pas connue des gens. Et lorsqu'on leur posait la question, bien 81% des Québécois trouvaient la situation inacceptable. Donc, c'est dire que les Québécois ont à cœur le bien-être, le développement des tout-petits et que lorsqu'ils sont sensibilisés à ces enjeux-là, souhaitent évidemment qu'on prenne des actions pour corriger la situation.
Oui, 91% donc des Québécois qui affirment qu'il est important que la société québécoise investissent, priorisent davantage le bien-être et le développement des tout-petits. Ça vous a fait quoi, en tant que directrice de l'Observatoire des tout-petits, d'observer ce pourcentage qui est fort élevé?
Mais c'est certain que pour nous, ça nous a fait plaisir, étant donné la mission de l'Observatoire, hein, qui est de contribuer à positionner la petite enfance comme une priorité de la société québécoise. Et ce qu'on a trouvé particulièrement intéressant, c'est qu'on a été sonder un peu l'opinion des Québécois et Québécoises sur différentes mesures qui pourraient être mises en place pour diminuer ces écarts de développement, diminuer l'écart aussi qu'il existe entre les enfants des milieux les plus favorisés et les enfants des milieux défavorisés. Et on a pu voir que certaines mesures sont vraiment jugées très pertinentes par les Québécois et les Québécoises.
Oui. Qui avez-vous sondé, Fanny, pour le sondage?
En fait, dans une première étape, on a réuni des acteurs du domaine de la petite enfance, des gens qui travaillent soit sur le terrain, dans les milieux communautaires ou encore dans les municipalités. On avait également des scientifiques. Donc, on a réuni ces gens-là pour d'abord, faire ressortir les mesures qui semblaient les plus pertinentes selon les gens qui travaillent vraiment sur le dossier à chaque jour. Et ensuite, on a soumis ces propositions de mesures à l'opinion des Québécois et des Québécoises au cours de l'été. Et ce que ça nous a révélé, c'est que, premièrement, près de 9 Québécois sur 10 sont d'accord avec le fait d'accroître les sommes accordées aux organismes communautaires qui offrent des services aux familles et aux tout-petits. Donc ça, c'est particulièrement intéressant parce qu'on voit que les Québécois reconnaissent la valeur de ce qui est offert, de ce qui est offert par les organismes communautaires. On note également que la mesure qui consiste à offrir des activités gratuites au sein des municipalités auprès des enfants et des familles de milieux plus défavorisés était aussi une mesure qui allait chercher là, un fort taux d'adhésion.
Oui. C'était une façon d'aller, bon, bien sûr, sonder l'opinion publique, Fanny, mais j'imagine d'aller recueillir à quelque part de bonnes idées de gens qui réfléchissent à ça tous les jours.
Oui, exactement. Et c'est pour cette raison-là qu'avant de faire le sondage auprès de la population, on a voulu partir de l'opinion des gens qui travaillent sur le sujet, donc des scientifiques, des intervenants qui côtoient les clientèles à risque et tout ça. Donc, de vraiment puiser dans leur expertise, leur expérience pour pouvoir faire ressortir les mesures qui leur semblent les plus prometteuses et ensuite voir où se situe le Québécois moyen finalement par rapport à ces différentes mesures-là.
Oui. Maintenant, il y a une chose qui me semblait aussi assez importante, c'est que il faut briser l'isolement des parents qui vivent peut-être en précarité. Comment on peut arriver à favoriser le travail du parent pour favoriser le mieux-être de l'enfant?
Oui, bien justement, l'une des mesures qui a été sondée, en fait, indique qu'on pourrait offrir davantage, développer le transport en commun pour briser l'isolement des familles. Et ça, c'est l'une des mesures justement qui est ressortie avec des forts taux d'adhésion, au même titre que les logements sociaux destinés aux familles, donc 82 % des Québécois qui étaient en faveur d'un investissement pour augmenter le nombre de logements sociaux. Donc, on voit que c'est des mesures qui ne sont pas nécessairement accolées directement à la petite enfance.
Oui.
Hein? C'est ce qui nous a un peu surpris, si on veut, quand on a regardé les résultats du sondage, parce que, bon, pour nous, on se disait, est-ce que les gens vont voir la pertinence de ces mesures-là, malgré le fait que ce ne soit pas directement collé à l'âge de la petite enfance, comme pourraient l'être les garderies ou les services éducatifs ou encore les congés parentaux. Mais non, il y a vraiment des mesures qui sont vraiment plus larges, comme les logements sociaux, le transport collectif, qui ont retenu l'attention de la population.
Oui. Encore une fois, on parlait de briser l'isolement des parents et ce résultat qui est très probant, c'est-à-dire, et vous en parlez tout à l'heure, Fanny Dagenais, 9 Québécois sur 10 est en faveur de davantage, d'offrir davantage d'activités gratuites pour les familles plus vulnérables. Par activités gratuites, on parle autant d'activités de loisirs, de camps de jour également. Ça aussi, c'est une façon de briser l'isolement des familles.
Oui, absolument. Ça peut devenir des lieux de socialisation. Ça peut également stimuler le développement moteur selon l'activité qui est soumise. Ça peut stimuler le développement, en fait, sous toutes sortes d'aspects, hein, le développement langagier parce que l'enfant va être amené à échanger avec des amis, le développement tout dépendant de l'activité en question. Donc, ça peut être une bonne source de stimuler pour les enfants.
Oui. Et une façon aussi d'être en contact avec ses enfants parce que vous parliez à travers ce sondage de l'importance de dépister tôt du de dépister de façon précoce différents obstacles que pourrait rencontrer l'enfant.
Oui, tout à fait. Et les Québécois étaient plutôt en faveur de mesures de dépistage et surtout appuyaient l'importance d'agir tôt. Donc, pour essayer de prévenir les problématiques en agissant tôt, donc de pouvoir prévenir peut-être des répercussions qui pourraient finalement avoir lieu tout au long du parcours de l'enfant, autant à l'école que dans sa vie personnelle.
Oui. Et j'imagine que toutes ces mesures-là qu'on veut mettre de l'avant, c'est un investissement qui est favorable pour le Québec.
Bien, écoutez, c'est certain que pour l'Observatoire des tout-petits, on est en faveur de bien s'occuper de nos enfants, de leur donner idéalement des chances égales. Hein.
Oui.
Et c'est ce qu'on voit, c'est que les enfants n'ont pas toujours des chances égales lorsqu'ils entrent à l'école. Donc, un enfant, tantôt je disais qu'un enfant sur quatre est vulnérable à la maternelle au Québec dans au moins un domaine de développement, mais cette proportion-là grimpe à un enfant sur trois lorsqu'on est dans les milieux les plus défavorisés. Et on voit que le fait d'avoir des écarts de développement très tôt dans la vie, donc entre 0 et 5 ans, bien, ça peut avoir des répercussions tout au long du parcours de l'enfant. Donc, ces enfants-là peuvent avoir plus de chances d'avoir des difficultés lors de leur école primaire et ensuite plus tard dans leur scolarité. Et même certaines études identifient que jusqu'à l'âge de 22 ans, donc jusqu'à l'âge adulte, on pourrait ressentir encore cet effet domino.
Maintenant que l'on a tous ces résultats issus de ce sondage, Fanny Dagenais, on fait quoi avec? De façon concrète, quelles seront les prochaines étapes?
Oui, mais ce que souhaite faire l'Observatoire, c'est vraiment de susciter le dialogue parce que c'est une chose d'éveiller l'attention de la population sur certains enjeux qui concernent les enfants, mais on ne veut pas que ça reste là. On ne veut pas simplement avoir plusieurs personnes qui constatent et qui disent « Mon Dieu, mais c'est inacceptable ». On veut aussi contribuer à la recherche de solutions et c'est pour cette raison qu'on a réuni des acteurs pour en discuter. C'est pour cette raison également qu'on a voulu aller chercher l'opinion de la population. Et la semaine dernière, on a organisé en collaboration avec l'équipe de Marie-France Bazot une soirée conférence sur la question où différents acteurs ont pris la parole. Il y a une enseignante qui a parlé de la réalité sur le terrain. On a des gens davantage au niveau politique également qui ont pris la parole. Donc, je crois que c'est encore possible de visionner cette soirée de dialogue sur le sujet de la petite enfance qui peut être très intéressante sur le site des productions Bazot. Mais c'est vraiment ce qu'on souhaite faire, donc susciter le dialogue et évidemment, les résultats du sondage et tout ça, on les diffuse actuellement pour que les décideurs, tant au niveau municipal qu'à l'échelle plus provinciale, puissent en prendre connaissance, puissent voir un peu les mesures qui ont été jugées les plus pertinentes par les acteurs et que ça puisse nourrir leur réflexion sur les plans d'action.
Oui, et nourrir la créativité parce que ce qui est ressorti de ce sondage-là, ce sont des idées qui sont parfois peut-être plus marginales ou plus en parallèle de ce que l'on aurait pensé au départ comme action concrète, mais tout ça sert à peut-être tenter des choses que l'on n'avait pas fait auparavant.
Oui, absolument.
Oui. Fanny Dagenais, vous êtes la directrice de l'Observatoire des tout-petits. On peut consulter ce sondage sur votre site toutpetit.org et je suis certaine qu'on aura l'occasion de se parler dans les prochains mois à travers C'est bon pour la santé.
Bien, merci beaucoup.
Au plaisir.
Au revoir.
Je vous le disais tout à l'heure, par cette émission, on avait envie de vous livrer des outils, des conseils, des trucs bien concrets. Et il y a cette formation qui existe depuis plus de 15 ans qui s'intitule « De l'autre côté de la pilule ». Elle est offerte, cette formation, par l'Association des groupes d'intervention en défense de droit santé mentale du Québec. Et on en parle davantage à l'instant avec la directrice de cette association, Doris Provencher. Bonjour.
Bonjour, Madame Paquette.
Donc, une formation qui existe depuis le début des années 2000. Ça fait déjà un petit bout, donc on peut voir que c'est ancré maintenant et probablement que ça existe encore parce que ça a récolté quelques succès. Au départ, au début de l'année 2000, qu'est-ce qui vous a amené, quel constat vous a amené à mettre en place une telle formation?
Oui, en fait, il faut même revenir un peu plus en arrière. Au début de l'association, on a 26 ans d'existence. Et au tout début, vous savez, les gens qui vivent un problème de santé mentale, qui prennent de la médication, ce qu'on constatait, c'est que souvent les personnes étaient peu ou pas informées de ce qu'ils prenaient. Ils connaissaient la médication par la couleur de la pilule. Et donc, à un moment donné, ils vivaient toutes sortes d'effets secondaires. Et ce qui arrivait, c'est qu'ils finissaient des fois par les jeter d'un coup. Alors donc, c'était très dangereux et c'était pas...
Mais pas très efficace si on arrête de les prendre. Hein?
Oui. Et on s'est dit, nous, ben, au lieu de se mettre la tête dans le sable, et de, on va, en se basant sur la question du droit à l'information, on va informer le monde. Vu que on les informe pas, même si mon médecin devrait m'informer légalement, ben nous, on va les informer, puis on va aussi parler d'une question qui s'appelle le sevrage. C'est une personne, toute personne peut vouloir essayer de diminuer, hein, pour être mieux, pour avoir moins d'effets secondaires, pour être plus fonctionnel. Alors donc, on s'est dit, on va présenter une façon de faire qui va être sécuritaire pour les gens. Donc,
Mais était-ce une façon, Doris Provencher, de critiquer le travail des médecins ou le système de santé mis en place?
Non, c'était une façon pour répondre aux besoins et aux droits des personnes qui prennent des médicaments.
OK.
C'était vraiment, c'est l'angle qui on s'est rendu compte qu'il y avait un manque. Bon, ça, qu'il y avait un manque qui vient d'un endroit ou d'autre, ça, c'est un autre dossier. Mais vraiment, c'était pour répondre aux besoins des personnes. Parce que vous savez, ça peut être très dangereux. Ouais. Il y a des personnes qui peuvent en mourir même. Si je prends une médication depuis quelques années puis que j'arrête d'un coup, ça peut être très, très dangereux. Ouais. Donc, c'est dans ce sens-là.
Mais c'était pour répondre à ce besoin que parfois, le patient manque d'informations.
Tout à fait. Ouais. Parfois, je vous dirais souvent, ça s'est peut-être amélioré parce que ça fait quand même longtemps que je travaille, moi, dans le milieu de la défense de droit en santé mentale. Oui, ça s'est amélioré, mais il y a toujours une méconnaissance pour les personnes de ce qu'ils prennent, de ce qu'on leur prescrit comme médicament.
Les interactions, j'imagine.
Exactement, les effets secondaires, les interactions. Et des fois, vous savez, quand on donne la formation, parce qu'elle a été pensée premièrement pour les personnes qui en prennent, donc ils assistent à la formation. Écoutez, des fois, là, il y a des gens qui nous parlent de leurs prescriptions, puis on se demande, en tout cas, moi, les informations que j'ai, des fois, il y a des médicaments, il y a des familles qui ne devraient pas aller ensemble, puis il y a des personnes qui prennent des choses qui sont potentiellement dangereuses. Mais...
OK. Alors, mais pourtant, des choses qui ont été, des médicaments qui ont été prescrits par un médecin.
Bien sûr. Mais vous savez, les médecins, ce ne sont pas les spécialistes des médicaments. Le spécialiste, vous savez, parce qu'un psychiatre, par exemple, ou un médecin psychiatre, il y a quoi, peut-être 45 heures dans sa formation sur les médicaments. Le spécialiste, c'est le pharmacien.
Mm-hmm.
Lui, toute sa formation n'est que sur les médicaments. Donc, ce qu'on dit aux gens aussi toujours, si vous avez des questions et tout, c'est le pharmacien. Bien sûr, et on est dans un drôle de système. C'est le médecin qui prescrit. Mais il n'y a pas toute la connaissance nécessairement. Puis, c'est le pharmacien qui doit remplir une prescription, qui doit donner des médicaments. Ça arrive, vous savez, des fois qu'il y a des pharmaciens qui refusent de remplir une prescription. Donc, ils vont communiquer avec le médecin pour essayer d'arranger ça, là. Mm-hmm. Mais ça arrive.
Doris, quel est le profil type des gens qui assistent à vos formations?
Ça peut varier. Il y a des gens que ça, ça peut faire des années qu'ils prennent des médicaments, des psychotropes. D'autres, c'est plus récent. Il y a des intervenants aussi qui assistent. Il y a des gens qui travaillent dans des organismes communautaires, donc oui, qui travaillent auprès des personnes. Il y a des intervenants qui travaillent dans le réseau public. On a déjà eu aussi des proches, des familles, des proches aussi, qui assistent. Donc, c'est vraiment, c'est très varié comme mmh, personnes qui suivent la formation.
Des proches qui veulent comprendre quels sont les impacts mmh, d'une médication sur leur proche qui est malade et qui vit avec un problème de santé mentale.
Oui, puis c'est aussi, il y a beaucoup de désinformation sur la médication. Ça aide la médication, on s'entend, c'est un outil important, mais c'est pas le seul. Et souvent, on va faire à croire que si la personne apprend ses médicaments, tout va bien aller.
Mm-hmm.
Ça va aider. Puis des fois, vous savez, il y a des personnes qui prennent une médication depuis X nombre d'années. Ils apprennent toujours de la même façon et tout à coup, boum, à un moment donné, ça marche plus. Pourquoi? On ne le sait pas. Mais donc, vous voyez, c'est pas simple. Mais ce qu'on se rend compte, elle s'appelle l'autre côté de la pilule parce que il y a des informations qu'on donne aux gens. Puis toutes les informations qu'on donne, on n'a rien inventé, là. C'est basé sur des recherches. Ça a été vérifié par un pharmacien qui travaille à Louis H. Lafontaine. Bon, et il y a des informations que les gens, même les intervenants qui travaillent dans le domaine, n'avaient jamais entendu parler.
Mmh. Est-ce qu'il y a des pharmaciens qui viennent pour transmettre certaines informations?
Non.
Elle est construite de quelle façon, cette formation-là?
La formation, écoutez, c'est sur 2 jours, donc on commence vraiment à regarder comment ça marche dans mon cerveau, la médication, parce qu'on dit toujours « Ah, c'est la maladie qui revient ». Ben peut-être il faut voir comment ça fonctionne, physiologiquement comment ça fonctionne. On parle des droits, bien sûr, parce que la formation, elle est basée sur les droits, le droit à l'information, donc on regarde les droits, on regarde aussi une vision critique, parce qu'on a une vision critique, nous. Donc, oui, c'est vraiment comme d'éveiller les gens. Et après, on va regarder 5 familles de médicaments.
Mm-hmm.
Et on termine avec la gestion autonome de la médication. Donc, si une personne, elle veut diminuer une médication, ben voici comment la personne, elle peut faire. Et voici ce que ça implique. À la toute fin, on parle de l'appropriation du pouvoir, parce que nous avons le pouvoir sur nos vies, sur nos corps. C'est pas parce que j'ai un problème de santé mentale que j'ai plus le pouvoir sur moi-même.
Oui.
Alors, c'est ça.
C'est une façon pour le patient aussi de se réapproprier sa santé.
Exact. Vous savez, l'information, c'est le pouvoir. Si je suis en face de quelqu'un qui a une information que moi, j'ai pas, elle a quelque chose de plus que moi.
Mm-hmm.
Alors, quand nous, notre but, c'est vraiment pour informer les personnes, pour que quand elles ont, elles veulent discuter de leur médication avec leur médecin, ben qu'elles puissent travailler d'égal à égal, voyez, mm-hmm, et de pouvoir nommer les choses, de pouvoir dire les choses.
Mais d'avoir les outils aussi pour questionner le spécialiste de la santé qui est devant nous.
Exactement. Et je dois dire aussi que tout le contenu de la formation qu'on diffuse, les personnes qui participent ont le contenu, ont absolument tout le contenu qu'on donne. Et cette formation-là, c'est un lieu, oui, bien sûr, il y a beaucoup d'informations théoriques, mais ce qui est formidable dans cette formation, c'est que pendant 2 jours, on se crée un espace où on parle de la médication.
Oui.
Et ça, c'est rare aussi. Il faut vous dire aussi que nous, on donne la formation, la GIDE, on est toujours 2 personnes. Et il y a toujours une des 2 personnes qui vit un problème de santé mentale et qui en a pris ou qui prend des médicaments aussi.
Donc, qui est là pour témoigner de son propre vécu.
Qui est là comme formatrice, premièrement, et que si la personne, à un moment donné, elle sent à l'aise, elle peut parler de ce qu'elle a vécu, effectivement.
Oui. Doris Provencher, vous disiez quelque chose de plutôt intéressant tout à l'heure, à savoir que, oui, la médication est un outil parmi mm-hmm, tant d'autres. De mm-hmm, quoi ont besoin également les personnes qui vivent avec un problème de santé mentale?
Elles ont besoin de parler. Elles ont besoin de dire. Elles ont, comme tout être humain. Ce sont des pour moi, là, une personne qui vit un problème de santé mentale, c'est une personne. Point. Alors donc, c'est les mêmes besoins. Quand qu'il y a des difficultés, qu'il y a des peut-être particulières ou mais moi je pense, et ce que les gens nous disent, ce que les gens ont dit, qu'est-ce qui est bien important? Elles ont besoin de parler. Elles ont besoin d'être crues. Elles ont besoin d'être entendues. C'est ça le plus gros besoin que moi j'entends des personnes de parce que vous savez, quand j'ai un diagnostic psychiatrique, la première chose que je perds, c'est ma crédibilité.
Mm-hmm.
Parce qu'à partir de là, tout ce que je vais dire va être analysé à travers le prisme de ce diagnostic. C'est ça qui fait les préjugés aussi, d'ailleurs.
Oui. Et vous parlez du besoin de s'exprimer de ces personnes. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'études qui démontrent que avec une médication en parallèle, ce qui est très bénéfique, c'est une thérapie pour ces
Exactement.
Personnes.
Exactement. Exactement. Vous savez, c'est pas sorcier, c'est comme pour tout être humain, dans le fond. Si j'ai une difficulté, si j'ai un problème, il faut que j'en parle. Puis des fois, c'est pas avec mes proches. Des fois, ça m'aide pas avec mes proches. Il faut que j'en parle avec quelqu'un de neutre. Et il faut que je puisse exprimer tout ce que je veux exprimer. Moi, je pense que c'est ça. Puis c'est dommage parce que c'est pas accessible, parce que ça coûte des sous. Il y a tout aussi des thérapies alternatives. Il y a l'acupuncture, il y a du yoga. Il faut que la personne trouve sa façon à elle.
Oui. Parlant d'accessibilité, votre formation est accessible? Par quelle façon?
C'est difficile, vous savez, parce que nous, en fait, on fait beaucoup affaire avec les organismes communautaires des différentes régions du Québec. Et donc, c'est à partir de c'est un organisme communautaire dans une région qui va, par exemple, organiser, qui va faire la promotion, qui va la logistique et tout ça. Et nous, on y va sur invitation. Si
Parfait. On glissera tous les liens, bien sûr, sur notre site Doris Provencher. Je rappelle, vous êtes directrice de l'Association des groupes d'intervention en défense de droit santé mentale du Québec. On glissera le site web également, agide.org, pour en savoir davantage. Et pour diriger les gens, les proches aussi là, de personnes qui vivent auprès d'une personne aux prises avec un problème de santé mentale, afin d'outiller ces personnes. Doris, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie. Au revoir.
Vous êtes
santé.
Deuxième partie de cette émission, c'est bon pour la santé, toujours Marianne Paquette au micro, Jean-Sébastien Laliberté derrière sa console. Et on teste un peu ce nouveau concept. Je le disais, bon, c'est bon pour la santé, c'est la troisième année que j'anime cette émission, mais c'est la toute première fois en version 60 minutes. Donc, et on se rend compte que ça va plutôt vite. Hein. Avant, c'était 30 minutes, et là, il y a déjà 30 minutes de passé, et on continue à être en bonne compagnie. Donc, deuxième partie d'émission, tout à l'heure, je recevrai, elle sera là en studio, Mylène Aubertin-Lehoeudre, professeure au département des sciences de l'activité physique de l'UQAM, également spécialiste des aspects physiologiques du vieillissement et de l'exercice, pour nous parler de comment on peut ralentir, contrer ce processus de vieillissement auquel personne n'échappe par l'activité physique. Mais tout d'abord, on vous parle de cette deuxième édition des Journées québécoises des lésions médulaires avec son directeur, Walter Zelaya. Monsieur Zelaya, bonjour. Est-ce que je prononce votre prénom de la bonne façon?
Oui, tout à fait.
Bonjour. Alors, vous êtes le directeur général de Moelle épinière et motricité Québec, et ce, depuis 13 ans. Et là, pour nous parler de cette deuxième édition des Journées québécoises des lésions médulaires qui arrive tout bientôt, là, du 10 au 22 septembre, et ce, dans plusieurs régions du Québec. Tout d'abord, Monsieur Zelaya, quels sont les grands défis que rencontrent les gens qui vivent avec des blessures, des lésions médulaires en matière de santé?
Disons que les défis sont importants, sont très, très, très importants même. Vous avez une personne qui a une atteinte à la moelle épinière, règle générale, va avoir des problèmes qui qui sont liés, par exemple, aux prédépressions. Des problèmes aussi avec la pression, avec les, ils peuvent avoir des infections urinaires à répétition, ils peuvent avoir des problèmes même avec le cœur, donc la question de la pression, entre autres, ça risque d'avoir un impact donc également. Et une bonne partie aussi des personnes qui vivent une lésion à la moelle épinière vont avoir aussi des difficultés qui sont vont avoir des difficultés, je dirais, de santé en général vont être prises avec des douleurs chroniques également.
D'ailleurs, bon, trois webconférences qui ont retenu mon attention tout particulièrement et justement qui s'intéressent à la santé des personnes qui vivent avec des lésions médulaires, notamment sur la prévention des plaies, les chiens d'assistance et la mobilité, et également l'intégrité des bras. Qu'est-ce que ça signifie, ça, M. Zelaya?
Oui, disons qu'il y a un petit changement par rapport aux webconférences. La conférence de l'intégrité des bras a été remplacée sur la question de la sexualité. Homme-femme. Donc, c'est aussi un autre élément qui est aussi important. Puis, c'est un sexologue également qui va pouvoir nous aborder cette question-là le 22 septembre. Le 19 septembre, les chiens d'assistance, puis le 12 septembre, la question de prévention des plaies. Pour la prévention des plaies, les personnes qui ont une lésion à la moelle épinière, c'est un enjeu très, très important. Vous savez, ces pressions-là, les personnes, à cause d'un problème de mobilité, évidemment, souvent vont se faire des plaies et la guérison d'une plaie peut prendre plusieurs mois, même des années. Et donc, c'est un problème qui est très important et pour lequel la prévention est vraiment essentielle. Donc, le fait, par exemple, de bouger à toutes les heures, par exemple, le corps. Donc, il y a des techniques qui sont données finalement aux personnes qui vivent ces problèmes-là pour pouvoir prévenir finalement ces plaies-là.
Sur les chiens d'assistance aussi également, c'est assez intéressant, notamment parce que le grand thème de ces journées est l'autonomie en déploiement et le chien d'assistance permet, j'imagine, une plus grande autonomie pour les personnes qui vivent avec des lésions médulaires.
Ah, tout à fait. Vous savez, les chiens, on les a beaucoup connus pour les personnes qui ont des déficiences visuelles, mais de plus en plus, les personnes en mobilité, ça va les aider énormément. Comme on le sait, souvent, mettons, les personnes paraplégiques vont utiliser ses bras régulièrement, mais souvent, les chiens vont les aider énormément. Des fois, à tirer le fauteuil, mettons, dans une côte, les chiens vont également pouvoir les aider à ramasser des objets qui sont par terre, à porter des choses, des fois même à ouvrir, fermer la porte. Alors, les chiens est vraiment deviennent une aide technique, pour ainsi dire, viennent un accompagnateur extrêmement important pour les personnes blessées médulaires qui veulent avoir un chien.
Walter, on le disait tout à l'heure, c'est la deuxième édition de ces journées québécoises des lésions médulaires. Quels sont les objectifs derrière ces journées?
Les objectifs des journées, d'une part, c'est de rassembler les personnes qui vivent une lésion à la moelle épinière elles-mêmes, de pouvoir échanger, de donner des chances d'échanger, mais également de permettre à leur famille, à l'entourage, les amis, de pouvoir y participer et de manière plus large, de sensibiliser la population en général aux problèmes auxquels sont confrontées les personnes qui vivent une lésion à la moelle épinière. Et évidemment, pour nous autres, c'est aussi l'occasion de souligner, de célébrer aussi la vie et le courage, la détermination de ces personnes-là. C'est pour ça que notre programmation est une programmation qui comporte aussi également d'autres éléments qui sont, je vous dirais, un peu plus festifs et puis également plus d'activités qui sont sportives, des loisirs également.
Oui. Est-ce que les spécialistes de la santé y sont invités?
Oui, exactement. Vous voyez, comme les web conférences, si on regarde, ce sont les spécialistes de la santé. Ils sont des partenaires extrêmement importants pour nous autres qui participent. Mais pour toutes les activités, évidemment, quand je disais le grand public, mais j'aurais dû parler aussi de nos partenaires du système de la santé et d'autres partenaires également qui sont extrêmement importants dans la vie des personnes handicapées en général, des personnes ayant une lésion à la moelle épinière en particulier. Et ça, que ce soit pour l'intégration au marché du travail, pour l'intégration sociale et dans toutes les différentes sphères de la vie.
Oui, j'en parle parce que pour ces spécialistes, je le sais, c'est un grand défi d'avoir dans leur bureau des gens qui vivent avec des lésions médulaires parce que, comme on le disait tout à l'heure, les défis sont tellement vastes et ils sont là aussi pour une longue période de vie. Donc, l'approche est également à réfléchir et cette approche demande de nombreux défis en elle-même.
Oui, tout à fait. Puis, ce sont extrêmement importants et on est conscient quand même que dans le contexte actuel où, avec les problèmes qu'on a au niveau du réseau de la santé et des services sociaux, ces spécialistes-là sont en demande et puis sont souvent surchargés également, mais sont quand même extrêmement précieux et d'une aide extrêmement importante pour la population et la clientèle de la communauté des personnes blessées médulaires.
Oui. Monsieur Zelayan, en quoi consiste cette soirée sur roues qui sera présentée le 21 septembre?
Alors oui, ça se tient à Montréal. Et vous voyez, l'idée, c'est que nous connaissons tous, ou en tout cas, il y a une bonne partie des gens qui connaissent des personnes vivant avec un handicap qui nous épatent, qui se dépassent, qui nous touchent. Et puis pour cette c'est la deuxième édition, la soirée sur roue va mettre l'accent sur les personnes qui vivent avec une lésion à la moelle épinière et qui nous inspirent. Donc, au programme, je vous dirais, avant tout, c'est un cocktail dînatoire. Donc, c'est un 5 à 7, mais qu'en fait, ça va être un 5 à 8. Dans lesquels il va y avoir l'animation des kiosques, des témoignages. On va voir aussi une prestation musicale d'Emmanuelle Robitaille, une chanteuse qui elle-même elle est atteinte d'une lésion à la moelle épinière et qu'elle s'est faite connaître par l'émission La Voix. Dans laquelle elle avait été finaliste. Alors, lors de cette soirée-là, ça va être l'occasion pour les personnes qui vivent avec une lésion à la moelle épinière, leur famille, l'entourage, les partenaires de la santé, d'autres partenaires du milieu privé, puis les amis, les compagnons des groupes communautaires également, d'autres groupes, de venir participer, puis célébrer ensemble, si vous voulez, l'apport et la contribution des personnes qui vivent avec un handicap.
Est-ce qu'il est encore possible de s'inscrire à vos activités?
Oui, tout à fait. Alors, les gens n'ont qu'à, d'une part, de visiter notre site Internet où il y a toutes les informations sur les différentes activités qui se tiennent à travers le Québec. Donc, moelleépinière.com, c'est notre site Internet. Et sinon, on peut nous contacter au 514-341-7272 et puis ça va nous faire grand plaisir de pouvoir donner l'information et inviter tous ceux et celles qui veulent de participer à nos activités.
Walter, je trouve que l'une des forces de ces journées est probablement que vous n'avez pas que mis l'accent sur la grande région de Montréal, c'est-à-dire que les activités se déroulent également au Saguenay, à Québec, à Blainville, dans le Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie. Est-ce que c'était une façon aussi, à quelque part, de comparer certains services qui ne sont pas nécessairement toujours les mêmes en région et en grande région ici à Montréal?
Oui, en partie, je vous dirais indirectement, c'est ça. Et les messages que nous, on envoie comme organisation, vous savez, nous avons des limites financières, des ressources, mais on a fait un effort important pour nous assurer que toutes les personnes, vous voyez, les personnes qui vivent un handicap sont à Montréal, mais sont aussi en région, puis de dire, voilà, il y a des activités qui se tiennent un peu partout, puis il y a moyen de pouvoir souligner, de pouvoir participer, peu importe dans la région. Et l'idée des web conférences, c'est justement d'être accessible, peu importe où on se trouve au Québec.
Et de briser l'isolement parfois des gens qui vivent en région éloignée.
Ah, tout à fait.
Walter Zelayan, je le rappelle, vous êtes directeur général de Moelle Épinière et Motricité Québec, que l'on connaît également sous le nom Mémo Québec. On sera là pour vos journées qui célèbrent les personnes qui vivent avec des lésions médulaires, ces journées québécoises. Moelleépinière.com pour en savoir davantage. Merci.
Merci.
Au Québec, on le sait, on vit de plus en plus longtemps, en fait, l'espérance de vivre en augmentant. C'est une excellente nouvelle et les chiffres sont là pour en témoigner. Le Canada arrive en 10e place au chapitre de l'espérance de vie globale, une espérance de vie qu'on dit 79,4 ans chez les hommes et de 83,4 ans. J'ai dit pourcent, là, mais c'est des années chez les femmes. Toutefois, l'espérance de vie en santé, c'est pas aussi concluant. On dit même que les chiffres tendent à stagner. Comment on peut ralentir ce processus de vieillissement, notamment par l'activité physique? Et j'en parle avec Mylène Aubertin-Leudre. Elle est professeure au département des sciences de l'activité physique de l'UQAM, également spécialiste des aspects physiologiques du vieillissement et de l'exercice. Bonjour, Mylène.
Bonjour.
Merci d'être là. Donc, l'activité physique, on en parle de plus en plus, en fait, aurait des effets plutôt probants sur le ralentissement de ce processus de vieillissement auquel on n'échappe pas. Comment ça affecte ce processus, l'activité physique?
Bien, en fait, le fait de s'activer, de se bouger, va mobiliser vos muscles, va mobiliser vos articulations, et donc, par ce fait-là, va permettre de conserver toutes les fonctions de ces organes physiologiques dont on a besoin pour rester autonome, par exemple, physiquement, au sein de notre domicile. Le fait de bouger va aussi vous permettre de garder votre santé cardio-respiratoire, donc vos cœurs, vos poumons, aussi en santé. Et de plus en plus, l'activité physique démontre un effet au niveau cognitif, au niveau du cerveau, pour prévenir les maladies d'Alzheimer. Donc, dans son ensemble, elle aurait des bénéfices sur tous les organes physiologiques importants.
Et d'ailleurs, vous le dites, hein, vous n'hésitez pas à l'affirmer, bougez, point final, peu importe ce que vous faites, bougez. Mais ce qui est intéressant, Mylène, c'est que dans votre lab, vous analysez encore plus précisément, à savoir, oui, bouger, mais de quelle façon on peut bouger pour que ces résultats soient encore plus probants. Il y a des activités qui seraient peut-être des activités physiques, oui, qui seraient plus adéquates pour ralentir ce processus.
Oui, en fait, ma doctrine, elle est bouger et bouger comme vous le voulez, parce qu'en fait, un des chiffres qui est quand même alarmant, même si on dit que l'activité physique est efficace, c'est que 65 % des personnes âgées sont sédentaires.
Ouais.
Donc, première barrière, ils ne s'activent pas, donc si on peut juste les faire bouger comme ils le veulent, c'est déjà le premier message. Le deuxième message, oui, dans notre laboratoire, on s'occupe d'essayer de comprendre comment l'activité physique peut être adaptée et efficace chez la personne âgée. Parce qu'en fait, quand on regarde les recommandations dans les sociétés d'exercice et de physiologie américaines, canadiennes, européennes, elles ne sont pas spécifiques à nos personnes âgées. Et ça m'a surprise, en fait, de savoir que les gens de 20 à 55 ans avaient les mêmes recommandations en termes d'exercice en résistance, donc en musculation pour faire grossir les muscles, si on peut être grossier un peu, et au niveau cardiovasculaire ou de flexion, ou que les jeunes. Et là, je me disais, c'est pas possible, il doit y avoir une spécificité. Un, ils ont plus de maladies, plus de comorbidités, de maladies chroniques, donc il y a forcément quelque chose qu'on doit faire. Donc on s'est penché là-dessus, et une de nos études a montré en fait que oui, pour garder des muscles en santé, donc une bonne fonction musculaire et une bonne mobilité, jusqu'à 65 ans à peu près, les gens doivent mettre de préférence des exercices de musculation, donc des exercices où on essaye de soulever des poids pour permettre d'augmenter la masse musculaire et la préserver. Par contre, à partir de 65 ans, notre étude a démontré que indépendamment de l'activité physique, qu'elle soit cardiovasculaire, donc faire de la marche, du tapis, de l'elliptique, du vélo.
Du Zumba.
De la Zumba, exactement, était aussi efficace que les exercices en musculation pour préserver cette fonction musculaire, cette mobilité-là. Donc ça a été une des belles découvertes et assez surprenante en fait, mais qui à la fin disait aux gens, bougez, vous allez permettre d'avoir une belle fonction.
Vous avez aussi, et ça je trouvais ça très probant comme résultat, analysé deux groupes, des jeunes hommes en santé, actifs, des hommes plus âgés, 65 ans et plus, je crois, actifs aussi, et vous vous êtes rendu compte, ils ont à peu près la même forme physique.
Oui, en fait, une des objectifs du laboratoire, c'est de vérifier comment la fonction musculaire se décline à travers les ans. De façon naturelle, on perd de la masse musculaire, on perd de la force, on perd de la puissance. Et tout ça, normalement, c'est utile pour pouvoir marcher, pour pouvoir se déplacer. Et on s'est demandé, est-ce que le fait d'être actif dans sa vie peut limiter cet effet-là? Et notre première surprise, c'est que quand on regardait la qualité musculaire, donc le ratio de la force sur notre masse corporelle, elle était identique entre des personnes âgées actives de 65 ans et plus et des jeunes hommes actifs de 25 ans d'âge moyen. Donc ça a été notre première surprise, c'est que oui, l'activité physique préservait, mais elle ne préservait pas juste en surface, au niveau cellulaire, au niveau mécanistique, les fibres musculaires, le système neuromusculaire, les jonctions, tout était identique entre nos jeunes et nos âgés.
Mais ma question, Mylène, c'est que ces hommes qui faisaient partie du groupe plus âgé, 65 ans et plus, est-ce que c'était des individus qui faisaient de l'activité physique depuis des années? Parce qu'on a souvent tendance à dire « bon, moi, je ne suis pas active ». En fait, c'est renverser la vapeur, ça devient vraiment très difficile. Bon, à quel moment il faut se prendre en main?
Alors, dans ce groupe-là, on était vraiment dans un modèle de « successful aging » qu'on appelle, c'est-à-dire de vieillissement réussi. Ces gens-là, quand ils ont été inclus, ils en faisaient depuis plus de 10 ans d'activité physique de façon régulière. Par contre, ce ne sont pas des super athlètes. Ce n'est pas les gens qui font des marathons. Ce n'est pas les gens qui vont aller faire des Ironman comme on voit en ce moment sur le site web, mais qui font de l'activité physique, du tennis, de la marche avec les amis, du golf, qui restent actifs. Mais on a aussi démontré dans d'autres études où quand on activait les gens alors qu'ils étaient sédentaires depuis longtemps, puis avec une moyenne d'âge de 72 ans, qu'on était capable de faire regagner de la qualité musculaire jusqu'à plus de 120% chez certaines personnes. Donc, c'est pour ça qu'il n'est jamais trop tard.
Oui, et bon, si on regarde ce groupe-là qui avait 65 ans et plus, ça fait plus de 10 ans qu'ils font de l'activité, s'ils ont commencé à 45-50 ans, par exemple, les résultats sont quand même là et très, très probants. C'est quand même plutôt encourageant, tout ça. Vous parlez de qualité musculaire, Mylène, et ça, j'imagine que c'est assez important pour éviter les blessures, favoriser l'équilibre, aussi éviter les chutes?
Bien, la qualité musculaire, elle est essentielle pour essentiellement l'équilibre, les chutes, la mobilité, se déplacer. Surtout au Québec, il y a une particularité quand on se déplace dans les rues. Le fait de vouloir traverser une rue, il faut être rapide.
Ouais.
Les passages piétonniers, on a souvent, nous, juste quand on est jeune, le temps de traverser, qu'on est déjà avec la main qui clignote puis qui nous annonce que c'est le feu rouge. Bien, la qualité musculaire, c'est la capacité à pouvoir se mobiliser avec tout notre équipement, c'est-à-dire nos muscles, notre force, nos os, pour pouvoir se déplacer, pour pouvoir se mettre en mouvement. Et donc, plus on la maintient, plus on va être capable de traverser une rue en une seule fois et pas en deux fois. Parce qu'une des problématiques chez la personne âgée qui ne veut pas se déplacer en dehors de la neige, du verglas, c'est je n'ai plus l'aptitude à traverser. Je n'ai plus la capacité à me rendre d'un bloc à un autre sans être fatigué. Donc, la maintenir va permettre de pouvoir aller au supermarché, d'aller dans les dépanneurs, mais aussi traverser les rues sans se sentir en danger et pris entre deux circulations parce qu'on est rendu là, parce que l'âge...
Et ça, c'est la musculation qui peut favoriser ça. Est-ce que le cardio aussi a à voir?
Bien sûr, la santé cardio-respiratoire est essentielle. Pour avancer, il faut que tous les organes soient en action et le fait de maintenir et de se bouger va mobiliser de toute façon les trois systèmes, les poumons, le cœur et le muscle. Donc, tout va se préserver. C'est pour ça qu'on dit « bouger, c'est bon pour la santé », ça va vous permettre de vous garder en santé dans tous les sens à ce moment-là.
Je reviens à si on n'a jamais été actif, on commence par quoi?
On commence par quelque chose qui nous plaît. Moi, c'est vraiment mon premier objectif, c'est choisir quelque chose qui vous plaît. Si vous aimez marcher avec vos amis, continuez à marcher. La seule chose que je vous dirais, c'est essayez d'avoir un 5-10 minutes où vous n'êtes plus capable de parler avec votre ami. Vous êtes dans une intensité qui va vous permettre d'améliorer votre santé. Ce genre d'exemple-là. Bien sûr, on peut essayer d'aller voir dans les groupes communautaires. On peut aussi aller voir dans les sites Internet de notre laboratoire. On donne des sites des sites communautaires, on montre nos études, il y a plein de laboratoires, il y a plein de ressources qui existent. C'est sûr qu'elles ne sont pas connues par les personnes âgées, mais elles, ouais, peuvent, elles sont disponibles. Les YMCA, par exemple, font des cours pour les, à une époque pour les 50 plus. Donc, ça existe, des cours adaptés, ça existe pour être ensemble et pas se faire regarder, par exemple, par la petite jeune en forme, parce qu'on n'a pas forcément envie d'être comparé à ça. Il y a aussi des centres pour aînés. Il y a de plus en plus de kinésiologues spécialistes qui viennent dans vos domiciles. Donc, là, l'offre est là. Oui. Elle existe. C'est sûr qu'elle est peu connue encore, mais elle est de plus en plus disponible.
Vous, la nouvelle que maintenant les omnipraticiens pouvaient prescrire de l'activité physique, vous avez salué cette initiative, j'imagine?
Définitivement. Pour une fois, on mettait en avant la prévention au lieu de la curation. Donc, ça mettait aussi en avant que l'activité physique pouvait être un facteur de santé, de diminution des coûts de santé, surtout quand on sait que 65 % des coûts de santé au Canada sont chez les personnes âgées. Essayer de la prévenir par de l'activité physique, sachant qu'ils sont en plus sédentaires, est définitivement salutaire.
Ouais. Et Mylène, en terminant, vous travaillez justement, vous aussi, sur la prescription d'activité physique, mais pour une clientèle très, très ciblée, c'est-à-dire des personnes âgées qui ont eu un passage à l'urgence. En quoi ça consiste?
Oui, on a fait une étude dernièrement, en fait, chez les personnes qui vont à l'hospitalisation. Hein, ils sont de plus en plus par l'âge, à les côtoyer ces urgences-là. Et en fait, le groupe du Canada, le groupe de recherche canadien des urgences m'a contacté parce qu'en fait, ils avaient démontré que juste le fait d'aller aux urgences faisait décliner les gens au niveau de leur capacité physique, au niveau de leur mobilité, de leur autonomie.
Ouais.
Autour de 25% après 3 et 6 mois. Donc, ils m'ont demandé de faire un programme d'activité physique. On s'en est servi avec une géronte technologie qui est Made in Montréal, qui s'appelle Gintronics. Et avec la compagnie et mon savoir-faire en kinésiologie et mon équipe, on a créé des programmes d'activité physique adaptée qui se mettent sur la télévision avec une Kinect, qui permettent d'avoir des retours directs pour la personne âgée, donc de se sentir en sécurité, et aux professionnels de faire les suivis à distance, de ne pas être obligé d'être à la maison de la personne au moment de la séance. Et donc, on a démontré à travers cette séance qu'on était capable de récupérer la capacité fonctionnelle, c'est-à-dire, par exemple, la vitesse de marche des gens, on a été capable de leur améliorer cette capacité-là.
Eh oui, donc de contrer le déclin d'une part, mais également de l'encadrer aussi là, et de pouvoir le visualiser, travailler finalement à ce que la personne garde sa santé le plus longtemps possible.
Définitivement, cette notion d'encadrement, même à distance, est pour moi la notion la plus importante parce qu'on ne pourra pas mettre un kinésiologue à toutes les maisons, voilà, avec 25% des populations. Et le fait que les personnes âgées se sont senties en sécurité était aussi quelque chose de très important pour que ça perdure dans le temps.
Mylène Aubertin-Lehoeudre, je le rappelle, vous êtes professeure au département des sciences de l'activité physique de l'UQAM, spécialiste des aspects physiologiques du vieillissement et de l'exercice. Bonne rentrée.
Merci.
Et merci de votre passage.
Merci.
Dernier segment de l'émission, je vous le disais, hein, ça passe vite, surtout lorsque l'on est bien accompagné. Un segment qui est destiné à vous parler d'un coup de cœur et aujourd'hui une proposition de lecture, un livre qui sort aujourd'hui, donc tout nouveau, tout beau, tout chaud. Ce nouveau bouquin signé Christine Michaud, qui est peut-être davantage connue comme animatrice, hein, vous la connaissez pour ses différentes émissions, notamment sur TVA, Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux, entre autres, Ma liste à moi, mais elle nous arrive avec ce livre, Mon projet bonheur. Ce que l'on sait peut-être un peu moins de Christine Michaud, c'est qu'elle a complété un certificat en psychologie positive. Et à la fin de l'été 2015, elle a mis sur pied un programme où elle accompagne plus de 1600 participants pendant 12 semaines. Et suite à cette aventure, est né ce livre parce qu'elle voulait rendre son travail, sa réflexion sur la psychologie positive accessible au grand public. Donc, Mon projet bonheur s'est étalé, vous l'aurez compris, sur 12 semaines. Chaque semaine aborde un thème particulier lié à la psychologie positive, bien sûr. Donc, le plaisir, la bonté, l'amour, l'apaisement. Un de mes passages préférés, c'est l'importance du toucher que l'on oublie peut-être un petit peu dans notre société. Prendre le temps de toucher, de caresser, de réconforter également par le toucher. Le livre s'accompagne d'activités, il s'accompagne également d'activités d'outils concrets, d'exemples concrets. Ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a des propositions de lecture à travers ce livre, des propositions également de musique, des musiques que l'on peut écouter pour nous rendre heureux, nous faire du bien. Et c'est garni de magnifiques photos. Donc, un très beau livre que je vous propose et ça sort aujourd'hui. C'est la bonne nouvelle sur les tablettes. C'est publié par Édito, Mon projet bonheur de Christine Michaud. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cette nouvelle édition. C'est bon pour la santé. 60 minutes, on brisait la glace avec vous. Et avec Jean-Sébastien Laliberté derrière sa console. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Merci également aux participants de cette émission. Je parle de Fanny Dagenais, directrice de l'Observatoire des Tout-Petits, Doris Provencher de la formation de l'autre côté de la pilule, Walter Zelaya, lui des journées midulaires, des blessés midulaires, et également Mylène Aubertin, le Eudre, professeur du côté de l'UQAM. Je remercie également Christiane Campagnan aux médias sociaux, Anne-Laure Janson à la recherche de cette émission. Je vous rappelle que C'est bon pour la santé est rediffusé à 17h et que vous pouvez aller faire un petit tour là également sur notre site canalm.vusezvoix.com. Nous, on se redonne rendez-vous dans une semaine. D'ici là, portez-vous bien et bougez. Tiens, voici la résolution de ce début d'automne. Bougez, soyez actifs parce que c'est bon pour la santé. C'est pas moi qui le dis. Bye-bye.